إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن الإنسان خلق بطبائع كثيرة قد يستغلها في الخير والبر، وقد يستغلها في الشر والضر. فإما أن يجعل هذا الطبع تحت قيادة عقله فيكون سلاحا له في طريقه إلى الرضوان، وإما أن يستسلم كليا لهذا الطبع فيجعله قائد حياته إلى الخسران. من هذه الطبائع الكثيرة الجدل. الإنسان من طبعه أنه يجادل كثيرا، لأنه يريد أن تكون كلمته هي العليا وكلمة غيره هي السفلى. القرآن الكريم ينبهنا على هذا الطبع الجبلي الذي يوصف به الإنسان، فيقول سبحانه: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي إن الإنسان أكثر شيء جدالا ومجادلة ومراء وخصومة. وهذا الجدال سببه الرئيسي الكبر، فالإنسان الذي يجادل ويخاصم دائما وأبدا، فلا يجادل إلا لأنه لا يقبل الحق من غيره، ولا يتصور أن غيره قد يكون محقا وهو مخطئا، ولأنه يحقر الناس ويحقر آراءهم، فيظن نفسه وحده صاحب العقل الراجح وذا الرأي الناجح. وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، أي إنكار الحق واستحقار الناس، إنكار الحق واستحقار الناس، فهذا هو الكبر. والكبر هو الحاجز عن قبول الحق، وهو الحافز للجدال والخصام. بل إن الجدال أيها المؤمنون كان طبع الوثنيين المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجادلون، ما يسمعونه من وحي الله، ويخاصمون ما يسمعونه من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم دفعهم كبرياؤهم للصد عن سبيل الله بالباطل. فقال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أيها المسلمون، طبعا علينا أن نميز بين نوعين من الجدال، فالجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. الجدال المحمود هو الذي يهدف إلى إظهار الحق والدلالة عليه والدعوة إليه، وهو الذي أمر به الله تعالى نبيه في وحيه، فقال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي آية أخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا الجدال المحمود قد يستعمله المسلم مع أخيه المسلم إن كان الهدف منه إرشاد أخيه، لكن حتى هذا الجدال المحمود قد يستعمل لا يستعمله إلا بشروط، بشرط مثلا أن يكون هذا الشخص قابلا للنصح والإرشاد. أما إن كان معاندا لا يقبل حجة غيره فلا حاجة في مجادلته. فنفهم أن الجدال المحمود والمقبول هو الجدال الآمر بالمعروف أو والناهي عن المنكر إن كان نافعا غير دافع، لأن بعض الجدال وإن كان هدفه أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر فنتيجته إقناع وإقرار صاحب المنكر على منكره والمعرض عن المعروف على إعراضه. لهذا قال الله تعالى عن مجادلة أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بماذا؟ إلا بالتي هي أحسن. نعم إلا بالتي هي أحسن، لأن الغرض من المجادلة مع أهل الكتاب هو الوصول إلى الحق، وليس الغرض منها فقط إقحامه وإفحامه، لأن هذا قد يخلق في قلبه بغضاء وشحناء ويبعده عن الحق أكثر مما يقربه. فإذا كان هذا أمر الله تعالى وإرشاده في مجادلة أهل الكتاب الخارجين عن ملة التوحيد والإسلام، فما بالك بمجادلة إخوانك من المسلمين وإن كانوا مخطئين وإن كانوا مذنبين وإن كانوا مبتدعين. ثم إن النوع الثاني من الجدال هو الجدال المذموم، وهو الذي يستعمله السواد الأعظم من الناس عامة ومن المسلمين خاصة، وهو العديم الفوائد العقيم الصوائب. لأن هذا النوع من الجدال ليس له هدف مأجور ولا غرض مأمور، فهذا الجدال فقط انفعال نفسي وشخصي. فهذه المجادلة ليس الغرض منها أن أفهم وأفهم وأن أسأل وأسأل، إنما الغرض منها أن أسمع ولا أسمع، أن أقنع ولا أقنع. هذا النوع من الجدال أيها الإخوة منتشر في المجتمع كله، بل إنه قد تسلل حتى داخل بيوت الله والمساجد. فهذا النوع من الجدال هو الذي يتسبب في النشوز بين الزوجين ويؤدي إلى عقوق الصغار وإهمال حقوق الكبار. هذا النوع من الجدال هو الذي يصل بالزوجين إلى العتاق والطلاق، ويصل بالأصدقاء والأخلاء إلى الشقاق والفراق. هو الذي يرفع الأخوة والائتلاف ويدفع إلى العداوة والاختلاف. نعم أيها المسلمون، لا شك أن هذه المجادلة والخصومة نزغ من الشيطان ولدغ من النكران، والدليل على ذلك على أن هذا الجدال وحي شيطاني هو قول الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فما بال المسلمين اليوم يجادلون في كل صغير وكبير، ويخاصمون في كل أصل وفصل، ينازعون في كل ما هب ودب. فهذا الجدال العقيم هو من الأسباب التي تجعل أمتنا متخلفة عن غيرها من الأمم في هذا الزمان. فبدلا من أن نفتح ضمائرنا وننقح بصائرنا لنسمع من غيرنا، فنأخذ ونقبل صوابه وندع خطأه، نعرض عن غيرنا لا نريد السماع منه إطلاقا، لأنه لا يقول بقولنا ولا يفكر بفكرنا. فصرنا نرفض كل ما جاء به غيرنا وإن كان صوابا، بحجة أنه ليس مثلنا ولا على سنتنا ولا على طريقتنا. هذا الجدال الباطل خطر على أمتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال. ثم قال ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال. وللأسف هذا الحديث ينطبق علينا في هذا الزمان. نحن على دين الإسلام، على دين الهدى والنور، ومع ذلك تناطع وتقاطع فيما بيننا، فقد فقدنا عزنا ومجدنا. ومن أسباب ذلك الجدال التافه: أنا على حق وإن كنت مخطئا، وأنت على باطل وإن كنت مصيبا. قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفر الله من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة على الظالمين، ولا عدوان، والعاقبة للمؤمنين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، mes frères, mes sœurs, parmi les nombreux caractères innés de l'être humain, il y a son penchant vers le débat et la polémique. L'être humain aime de manière innée et naturelle polémiquer, débattre et surtout avoir le dernier mot. Ceci est sans aucun doute, comme nous l'avons dit, un caractère inné. Mais pas comme tous ces caractères, s'il sait l'utiliser convenablement, s'il sait le mettre à sa bonne place, s'il sait comment et avec qui et quand l'utiliser, alors c'est un bien pour lui. Mais s'il ne fait que débattre pour débattre, juste parce qu'il est dans l'entêtement, juste parce qu'il veut simplement montrer qu'il a raison et avoir à tout prix le dernier mot, eh bien, sans aucun doute, cela le conduit vers l'errement et vers l'égarement. La principale cause de ce penchant vers la polémique vaine, futile et inutile, c'est l'orgueil, l'arrogance. Le Coran nous dit, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemple. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand polémiste, le plus grand débatteur, le plus grand querelleur. Nous avons donc dit la principale cause de ce penchant vers la polémique et le débat vain, c'est l'orgueil et l'arrogance. Parce que c'est l'orgueil qui pousse l'être humain à vouloir avoir raison à tout prix. Et lorsqu'il se rend compte qu'il a tort, parce qu'on lui présente les arguments cohérents et convaincants, il n'arrive pas à le revendiquer, à revendiquer son erreur. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Le professeur Asselem a défini l'orgueil en disant l'orgueil, c'est lorsqu'on méprise les gens et qu'on refuse la vérité. La personne qui a du mal à accepter la vérité parce qu'elle vient de l'autre, qui a du mal à admettre j'avais tort, j'étais persuadé d'avoir raison et pourtant j'avais tort. Celui qui n'arrive pas à faire cet effort sur lui-même, c'est parce qu'il est envahi, noyé par l'orgueil, par l'orgueil et la prétention et l'arrogance. Celui qui méprise les gens, c'est lui qui est orgueilleux. Parce que tellement il méprise les gens, il refuse d'admettre qu'une vérité peut venir de l'autre. Parce que pour lui, c'est comme admettre que cette personne est au-dessus de lui. Alors que ce n'est pas une question d'être au-dessus ou en dessous. C'est juste une question d'être honorable, accepter la vérité lorsqu'elle vient d'autrui, accepter l'argument lorsqu'il est clair, convaincant et cohérent. Et c'est ce que l'islam a enseigné aux musulmans depuis tout temps. Et pourtant, aujourd'hui, les musulmans sont devenus de grands débatteurs et de grands querelleurs sans aucun objectif sain. La polémique était par exemple l'instrument préféré, l'arme préférée des idolâtres à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils utilisaient la polémique. Ils aimaient envoyer des gens qui savaient parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour répondre, réfuter au Coran. Réfuter le Coran. Pour répondre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils savaient pertinemment qu'ils avaient tort. Mais ils voulaient juste montrer aux gens qu'ils pouvaient débattre, qu'ils pouvaient répondre. Se penchant vers la polémique, ou en tout cas cette arme qui ne sert pas à découvrir ou à aller vers la vérité, ça sert juste à monter son ego, à gonfler son ego, à montrer que c'est moi qui ai raison et que les autres ont tort. Il y a en tout cas deux sortes de débats et de polémiques. Il y a celle qui est bonne, la bonne, et il y a la mauvaise. La bonne polémique, le bon débat, c'est celui qui a pour objectif de faire apparaître la vérité. Peu importe qu'elle viendra de moi ou non. Lorsque je vais débattre avec quelqu'un, mon objectif, c'est que la vérité apparaisse. Soit c'est moi qui prouverai que j'ai raison, soit l'autre arrivera à me prouver que j'avais tort et qu'il a raison. Ça doit être ça, mon objectif. Mais l'objectif aujourd'hui des gens qui discutent, qui débattent, qui polémiquent, c'est uniquement de montrer que moi j'ai raison et que lui il a tort. Il sait à l'avance qu'il a raison. Il se persuade à l'avance qu'il a raison et il refusera, quels que soient les arguments qui lui seront présentés, d'admettre qu'il a tort. Allah Azza wa Jal, en parlant de ce débat qui est utile, qui sert à appeler vers le bien, à appeler vers la vérité, Allah Azza wa Jal nous dit, appelle à la voix de ton Seigneur à travers la sagesse et la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. Dans un autre verset, et discutez avec les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Mais même cette bonne polémique que nous sommes amenés à utiliser avec nos frères musulmans, on peut débattre aussi et discuter et ne pas être d'accord sur tout entre musulmans. Cette bonne polémique ou ce bon débat, même lorsque dans ma tête j'ai une bonne intention, je ne dois pas l'utiliser n'importe comment, avec n'importe qui, n'importe quand et de n'importe quelle manière. Parce que quelquefois je peux avoir une bonne intention dans le débat et finalement ça se retourne contre moi et contre mon interlocuteur. Finalement ça va nous diviser encore plus. Finalement ça va créer encore plus de fossés et ça va mettre encore plus la haine entre nous. Donc il faut savoir, tout d'abord il y a des conditions, il faut savoir est-ce que cette personne est une personne qui a tendance à accepter lorsqu'on lui présente des arguments qu'il puisse avoir tort. Si on sait que de toute façon à l'avance c'est quelqu'un d'entêté, à quoi bon débattre si ce n'est juste perdre notre temps? Il y a cela, il y a aussi le moment. Est-ce que c'est un moment propice pour débattre, pour discuter? Est-ce que je suis apte à ce moment-là? Est-ce que la personne qui est en face de moi est apte à écouter mes arguments et à me répondre? Ou alors il est de mauvaise humeur, ou il est dans une situation où c'est mieux de reporter ou de ne pas débattre. Donc même le bon débat, il ne se fait pas comme ça n'importe comment et avec n'importe qui et n'importe quand. Ensuite, il y a la deuxième sorte de polémique et de débat, c'est le mauvais. Celui, comme on a dit, qui n'a pas l'intention de faire apparaître la vérité qu'elle vienne de lui ou de l'autre, celui qui veut juste montrer qu'il a raison parce qu'il, de toute façon, il est persuadé à l'avance qu'il a raison et que les autres ont tort. Cette sorte de polémique et de débat est malheureusement très répandue chez tous les êtres humains, mais aussi chez les musulmans. Il n'y a pas d'objectif sain dans cette polémique et ce débat. Et il ne ramène que plus de division et de haine entre les gens. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous appelle à discuter, à débattre avec les gens du livre de la bonne manière. Si c'est ça le conseil qu'Allah Azza wa Jal nous donne avec des gens qui ne sont pas musulmans, alors qu'en est-il du conseil que nous devrions mettre en place lorsque nous discutons avec des musulmans qui ne sont pas d'accord avec nous, que nous considérons à tort ou à raison dans l'erreur, que nous considérons pour certains comme des innovateurs? Comment nous devons nous adresser à eux si nous voulons vraiment leur prouver et leur démontrer qu'ils ont tort et que nous avons raison? Il faut savoir que cette mauvaise polémique et ce mauvais débat, c'est une révélation du diable. C'est le diable qui insuffle et qui inspire aux gens de débattre de cette façon, afin de les faire haïr les uns les autres et de les éloigner du chemin de la vérité. La preuve que c'est une inspiration diabolique, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, les démons révèlent à leurs alliés de polémiquer avec vous. Les diables révèlent à leurs alliés, ceux qui les suivent, parmi les êtres humains, de polémiquer, de débattre vainement et inutilement avec vous. Et donc la réponse la plus cohérente et la plus logique, c'est que toi, tu refuses ce débat, puisque de toute façon, tu n'en tireras rien. Les musulmans doivent être capables de prendre de l'autre. Ils doivent être capables, non pas de polémiquer vainement, mais de débattre, de ramener les arguments et aussi d'accepter que l'autre puisse avoir raison et que lui, il a tort. Les musulmans ont toujours fait ceci dans les derniers siècles. Et c'est pour cela que l'islam, c'était elle qui était un modèle. Les savants musulmans étaient un modèle pour le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se refusaient aucun ouvrage, même les ouvrages de ceux qui n'étaient pas musulmans. Même les ouvrages dans des matières qui n'étaient pas habituellement étudiées en islam, comme la philosophie, comme les mathématiques ou d'autres. Ils ont été s'intéresser aux langues des autres, aux langues grecques, et ont traduit leurs livres vers l'arabe. Pourquoi ? Pour prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Et pour, lorsqu'il y a quelque chose de mauvais, le mettre de côté. Et pas dire à l'avance, tout est mauvais, tout est faux, donc il faut le mettre de côté et le jeter à la poubelle. Non, ce n'est pas ainsi qu'agissaient les musulmans. Et c'est ce qui a permis, en n'agissant pas ainsi, que les musulmans soient un modèle et un exemple pour toute l'humanité, et que c'était auprès d'eux qu'on cherchait toutes les sciences. L'imam al-Awza'i, pour terminer, rahimahullah, disait, quand Allah veut un mal pour un peuple, il les condamne et leur impose la polémique et il leur interdit et les empêche d'agir. Il les met, quand vous voyez des gens toujours polémiquer et débattre sur les mêmes sujets qui reviennent à tort et à travers et ne jamais évoluer dans leurs actions, alors sachez qu'Allah veut un mal à ce peuple, c'est-à-dire que ce peuple est encore loin d'être sur le chemin de la vérité. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا بدل ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم فرج عن هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين اللهم اهد شبابنا اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلحهم وأصلح بهم اللهم اجعل شبابنا صالحين مصلحين اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأخواتنا اللهم اجعلهن متسترات متحجبات مصليات صائمات عفيفات قانتات يا رب العالمين وأصلح الآباء والأمهات اللهم أصلح الآباء والأمهات اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.